Et Antoine Grenier pour le Journal des Sports. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
En Ligue des Champions, la couronne changera de tête, c'est désormais une certitude.
Avec l'élimination du Real hier par Arsenal, Kylian Mbappé et consorts battus comme au match aller, sur un score un peu moins lourd, 2-1, mais qui ne change rien à leur destin. Les Gunners, eux, affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale dans 15 jours, pendant que l'Inter Milan, qui a tenu le match nul de partout face au Bayern Munich, croisera lui le chemin du FC Barcelone.
Ce jeudi, encore des Coupes d'Europe avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa.
Mission délicate pour Lyon en déplacement à Old Trafford. Le nul de partout du match aller n'offre aucune marge de manœuvre aux coéquipiers de l'Angolais Clinton Mata. United qui de son côté va retrouver André Onana. Le gardien camerounais a fait les frais de son quart de finale raté en restant à la maison le week-end dernier. L'entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, lui avait préféré son alter ego turc Altay Bayındır pour garder les buts en première ligue contre Newcastle. Mais face aux Lyonnais, Onana va bien retrouver sa place. Ruben Amorim l'a confirmé.
Onana est prêt. Il a eu un week-end où j'ai senti qu'il valait mieux pour lui qu'il ne joue pas et que c'était une bonne chose pour Altay de jouer. Cette semaine, j'ai pensé mettre Onana et il va être vraiment bon, j'en suis sûr. Mais si c'est le contraire, les gens diront que c'était une mauvaise décision. Donc on ne sait jamais. J'essaie d'être clair sur les choses et d'essayer de rendre l'évaluation vraiment simple, sans trop réfléchir. Et lorsque j'imagine ce match, je vois André Onana. Il a eu un week-end de repos, maintenant il est prêt à reprendre la compétition et je l'ai donc choisi pour commencer ce match.
Manchester United, Olympique Lyonnais, coup d'envoi 19h temps universel.
Un mot aussi de la Ligue Europa Conférence et des quarts de finale retour, là aussi avec un duel africain en ouverture.
À 16h45 temps universel, Afimiko Pouloulou et le Jagiellonia Bialystok accueillent le Betis Séville de Cédric Bakambu. À l'aller, les Sévillans se sont imposés 2-0. Les autres quarts retour, Fiorentina Cellier, Chelsea Legia Varsovie et Rapid de Vienne du Garden.
Au Gabon, l'heure des questions et du deuil au lendemain de l'annonce du décès d'Aaron Boupenza.
L'attaquant international gabonais décédé hier en Chine, une chute du 11e étage de l'immeuble où il vivait. Boupenza, 28 ans, avait rejoint le Zhejiang FC en janvier dernier après des passages par la Turquie, le Qatar, les États-Unis ou la Roumanie. International à 35 reprises, il a inscrit 8 buts sous le maillot des Panthères et notamment pris part à la CAN au Cameroun en 2022 sous les ordres de Patrice Neveu, l'ancien sélectionneur gabonais qui se souvient d'un joueur de très haut niveau.
Alors, techniquement, c'était, je dirais, très très niveau dans ses prises de balles, dans ses enchaînements, dans sa qualité de frappe, dans sa précision. C'était aussi un véritable buteur et puis qui avait des dribbles extrêmement déroutants. Et à côté de ça aussi, des qualités physiques au-dessus de la moyenne, vitesse de course très très bonne, un volume de jeu très intéressant. Après, il fallait, mais comme ces attaquants de caractère, être à côté de l'homme et le gérer, quoi. C'était un joueur avec qui je devais être très très exigeant, mais aussi très très à son écoute et toujours un œil périphérique dessus, dans les rassemblements ou autres. Mais bon, quelque part, ça faisait partie de mon travail, mais un garçon aussi très attachant.
Patrice Neveu avec Eric Mamrut, plusieurs des coéquipiers d'Aaron Boupenza, très touchés par cette nouvelle, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, à l'image de Mario Lemina ou Pierre-Emerick Aubameyang.
Antoine Grenier pour l'Infosport sur RFI, 7h46 à Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et à la une, cette nouvelle menace aux États-Unis formulée par Donald Trump, le président américain toujours en guerre contre Harvard, l'université américaine accusée par les conservateurs du pays de ne pas suffisamment lutter contre l'antisémitisme sur son campus. Et ce mercredi, Donald Trump a menacé donc d'interdire à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Et cela si l'université refuse de se soumettre à un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique. En Ukraine, des frappes russes ont fait cette nuit 3 morts et au moins 30 blessés à Dnipro dans l'est du pays. Et c'est pour parler justement de la guerre en Ukraine que le secrétaire d'État américain Marco Rubio est à Paris ce jeudi, sa première visite officielle en France, accompagné de l'émissaire américain spécial pour le Moyen-Orient. Ils doivent s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Autre visite aujourd'hui, celle de Giorgia Meloni aux États-Unis. La chef conservatrice du gouvernement italien doit s'entretenir avec Donald Trump, avec qui elle partage un lien idéologique certain, et les Européens espèrent bien que cette visite permettra de débloquer le dialogue entre Washington et Bruxelles sur le sujet des droits de douane. L'armée israélienne a annoncé ce mercredi avoir transformé 30% de la bande de Gaza en zone tampon, l'enclave palestinienne où l'État hébreu a renforcé son offensive ces dernières semaines. Hier, le ministre israélien de la Défense a réaffirmé qu'aucune aide humanitaire n'entrera à Gaza, cette aide déjà bloquée depuis le 2 mars dernier. L'enclave est devenue une fosse commune pour les Palestiniens, selon une déclaration d'MSF hier. C'était le tout premier déplacement de Fornia Simbe en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. Il était à Kinshasa hier où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi, le président du Togo, nommé donc le 11 avril dernier par l'Union africaine pour remplacer l'Angolais João Lourenço. Alors a-t-il plus de chances de réussir dans ce dossier que son prédécesseur? De quelle marge de manœuvre dispose-t-il? Analyse ce matin avec notre invité Afrique, Pierre Boisselet, responsable des recherches sur les violences en RDC pour l'Institut Ebouteli. Il est en ligne avec Christophe Boisbouffier.
Pierre Boisselet, bonjour.
Bonjour.
L'attaque des quartiers ouest de Goma le week-end dernier, est-ce que c'est le signe que le M23 ne contrôle pas la totalité du territoire qu'il a conquis ces trois derniers mois dans l'est du Congo ?
Oui, en tout cas, c'est certainement le signe que le M23 n'est pas totalement en mesure d'assurer la paix et la sécurité dans le territoire sous son contrôle. Alors, les événements de ce week-end dernier sont probablement les plus spectaculaires qui ont eu lieu, au moins depuis que le M23 a pris les villes de Goma et Bukavu depuis le début de l'année. Mais il y en a eu d'autres. On pense notamment aux explosions qui ont eu lieu à Bukavu, un peu après la conquête de cette ville, en marge d'un meeting de Corneille Nanga. Il y a aussi eu ces derniers jours des incursions de miliciens Wazalendo aux abords de la localité de Kavumu, au sud Kivu, où l'on trouve le principal aéroport de cette province du sud Kivu. Donc on voit qu'à plusieurs endroits et à plusieurs moments, le M23 a montré que son contrôle de la situation n'était pas total.
Il y a un mois, le M23 s'est emparé aussi de la ville de Walikale, sur la route de Kisangani. Et puis quelques jours plus tard, le mouvement rebelle s'est retiré de cette position importante. Est-ce un retrait stratégique ou politique?
Alors c'est probablement un peu des deux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté que le M23 avait beaucoup de difficultés à maintenir ses lignes logistiques jusqu'à cette localité de Walikale qu'il venait de conquérir. Notamment la route entre Massissi et Walikale n'était pas du tout sécurisée. Et voilà, et leur convoi était à la merci d'attaques, de harcèlement. Mais par ailleurs, ce retrait est aussi intervenu au moment où les discussions étaient relancées par le Qatar. Une des conséquences de la prise de Walikale, ça a été la fermeture de la mine d'Alphamine, qui est contrôlée par des capitaux américains. Et donc, voilà, le fait qu'il se soit retiré, ça a permis l'annonce au moins de la reprise de la production dans cette mine. Donc, on peut imaginer qu'il y a pu aussi avoir des pressions politiques qui ont abouti à ce retrait.
Et le retrait du M23 de Walikale a coïncidé avec la visite d'un émissaire américain à Kigali.
Tout à fait, Monsieur Boulos, qui d'ailleurs a lui-même annoncé la reprise des activités d'Alphamine, dont je parlais à l'instant. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a eu un message de passé à cette occasion.
Un deal entre Messieurs Trump et Kagame?
Alors là, je ne saurais m'avancer jusque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des discussions, alors en réalité surtout entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain, sur l'accès aux immenses ressources minérales congolaises. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres négociations parallèles? Ça, je ne le sais pas.
Du côté des médiations internationales, le Qatar a réussi un joli coup. C'était le 18 mars dernier, quand il a réuni les présidents Tshisekedi et Kagame à Doha. Mais est-ce que cela n'a pas été un succès sans lendemain?
Alors, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour l'affirmer, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément embrayé avec un processus très convaincant, je dirais. On sait que depuis, il y a eu des délégations du M23 et du gouvernement congolais qui devaient se rencontrer à Doha pour poursuivre sur la lancée du sommet. Mais à ce stade, il y a vraiment peu d'écho. Il semblerait qu'il y ait assez peu d'avancées dans ces discussions qui ont donc suivi le sommet.
Dernière surprise, c'était le week-end dernier. L'Union africaine a désigné le président togolais Fornia Simbe comme nouveau médiateur à la place de l'Angolais João Lourenço. Est-ce que João Lourenço se heurtait à la méfiance de Paul Kagame, ce qui n'est peut-être pas le cas du nouveau médiateur togolais?
Alors, ce qui est certain, c'est que le Togo entretient de très bonnes relations avec le Rwanda, ce qui était peut-être un peu peu moins le cas de Joao Lourenço. Donc ça peut être un point positif.
Fornes Inbé s'entend bien aussi avec Félix Tshisekedi.
Oui, il semblerait. Et donc l'arrivée fracassante du Qatar dans cette médiation n'avait pas forcément été anticipée par l'Union africaine et l'a quelque peu marginalisée. Donc probablement qu'il s'agit aussi, au moins en partie, de replacer l'Union africaine dans cette médiation.
En allant chercher un pays en Afrique de l'Ouest, très loin du théâtre des opérations.
Oui, notamment. Alors c'est vrai que, contrairement à Joao Lourenço d'ailleurs, le président togolais ne siège dans aucune de ces deux organisations que sont la SADC et l'EAC, dont on connaît les tensions, et donc ça pourrait lui donner un avantage en termes de neutralité, mais peut-être que la difficulté par contre, ça sera pour le président togolais d'arriver à convaincre les deux présidents d'arriver à ce compromis. On ne voit pas forcément de quels moyens de pression ils disposent pour leur tordre le bras et y arriver.
Pierre Boisselet, je vous remercie.
Pierre Boisselet de l'Institut Éboutélil répondait à Christophe Boisbouvier. RFI Matin, votre chronique matière première. Tout de suite, on parle ce jeudi des difficultés rencontrées au Sénégal par la filière cajou. Et pour faire face, le gouvernement a annoncé récemment une série de mesures. Place donc à l'optimisme. Léa-Lisa Vesteroff, correspondante d'RFI à Dakar, nous en parle.
Les défenseurs de la filière cajou ont-ils été entendus ? La campagne qui démarre fin avril s'ouvre en tout cas sous de meilleurs auspices. Après une année 2024 marquée par une mauvaise récolte, jusqu'à 70% de moins de cajou dû à de fortes chaleurs et une flambée des prix du fait de la petite quantité d'anacardes récoltées, l'État a décidé de prendre des mesures. Et d'abord, obliger les exportateurs à obtenir un agrément auprès des autorités. L'objectif, avoir une traçabilité de ces acteurs qui viennent principalement d'Inde et du Vietnam, respectivement les deux premiers producteurs de noix de cajou au monde, et régulariser ainsi le marché de l'exportation. Autre mesure, celle de taxer les exportations de cajou à hauteur de 32 francs CFA par kilo de noix brutes exportées. Les opérateurs de la filière réclament depuis longtemps cette taxe pour encourager la transformation de l'anacarde et éviter que tout ne soit exporté à l'état brut. L'argent récolté doit ainsi servir à accompagner le développement de la filière, financer aussi la prime à la transformation. 150 francs CFA seront versés pour chaque kilo d'anacarde transformé et exporter. Car la transformation, c'est le maillon faible de la filière cajou au Sénégal. Avec environ 2000 tonnes de noix de cajou brutes transformées chaque année, le secteur ne représente que 3% de la production nationale. Mais il ne demande qu'à croître, affirme le défenseur de la cajou, qui espère faire monter la transformation à 10% d'ici 2027, ce qui permettrait de créer des emplois cruciaux pour le pays. Pour l'heure, les 11 unités de transformation du pays emploient 3050 personnes. Enfin, dernière mesure, celle de sécuriser un stock de 6000 tonnes de cajou destiné aux entreprises sénégalaises de transformation. Du côté des opérateurs, c'est la satisfaction. Ne reste plus qu'à espérer que les récoltes cette année seront au rendez-vous.
Léa-Lisa Vesteroff pour la chronique matière première. Cyclones, inondations, feux de forêt, glissements de terrain, séismes, tsunamis, des catastrophes naturelles endeuillent et détruisent chaque année à travers le monde des drames humains qui ne sont pourtant pas inéluctables. Avec le temps, les systèmes d'alerte et les plans de mise en sécurité de la population s'affinent et se perfectionnent pour sauver toujours plus de vies. Pour aider les États à se préparer, un exercice de simulation grandeur nature d'un séisme suivi d'un tsunami est organisé chaque année dans la zone Caraïbe. Sous l'égide des Nations Unies, il a rassemblé cette année 48 pays et mobilisé près de 500 000 personnes. Catastrophe naturelle, le monde en alerte, c'est un grand reportage signé Jeanne Richard. Tout de suite, extrait.
Allez-y, allez-y.
Alignez-vous deux par deux, je vais vérifier que tout le monde soit bien présent, s'il vous plaît. 18, 20, 22, ok, vous êtes tous là. Alors, nous venons d'avoir un séisme, vous avez compris ?
Oui, monsieur.
Vous avez eu les bons réflexes, restez calme. Après le coin d'un regroupement ici sur les gazonnés, il y a aussi un risque de tsunami pour ce séisme-là. Pour la première fois, vous allez devoir me suivre et aller au point de rencontre là-bas, près du crédit agricole. Nous irons avec toute l'école. Donc vous me regardez et vous m'écoutez pour que les choses se passent dans le calme et en sécurité, d'accord ?
Oui, monsieur.
Comment vous sentez-vous, ça va ?
Oui, ça va.
Voilà, on ne panique pas. et on avancera tranquillement.
Rodrigue Voitier est professeur de CM1 dans une école du Lamentin, l'une des communes littorales de Martinique. L'île des Antilles françaises est située sur une zone de subduction, là où s'entrechoquent les plaques terrestres des Caraïbes et des Amériques. Et son volcan, la montagne Pelée, est le plus dangereux de France. La Martinique est donc soumise à plusieurs risques naturels, séismes, éruptions volcaniques, coulées de boue, cyclones, tsunamis. Comme ses collègues, le professeur est formé au premier secours et en tant que responsable, il doit suivre un protocole bien établi.
J'ai la registre pour pouvoir vous identifier et appeler vos parents parce que j'ai l'adresse et le numéro de téléphone des parents. Et dans le sac, des denrées sèches et des bouteilles d'eau aussi.
Et il sait l'importance des exercices d'évacuation.
Alors les exercices aident forcément parce que ça permet de donner aux élèves des automatismes. Parce que même si effectivement ils savent que ce n'est pas la réalité, le cerveau aime avoir certaines habitudes pour être dans sa zone de confort et pour la sécurité. Donc avec l'émotion, le jour J, il est clair que les choses ne se passent pas forcément comme en théorie, je dirais. Ceci dit, comme les élèves sont habitués à avoir certains gestes pour se protéger, d'autres gestes pour pouvoir évacuer, donc ils vont quand même suivre le protocole.
Ce grand reportage de Jeanne Richard à écouter en intégralité aujourd'hui sur notre antenne 19h40, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
Macky Sall pourrait-il faire face à la justice sénégalaise? Un député a saisi le Parlement afin de poursuivre l'ancien président pour haute trahison. Après le scandale de la dette cachée, l'ancien dirigeant sénégalais doit-il rendre des comptes?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
1931, la mission Dakar-Djibouti sillonne le continent d'est en ouest. Un périple scientifique dont l'objectif affiché est d'archiver les cultures africaines. Une collection de 3600 objets dont le musée du Quai Branly décide un siècle plus tard d'interroger la provenance. Ont-ils été offerts, achetés ou volés?
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.